Thomas Mann a écrit une préface pour Le Château dans sa traduction américaine. Et il l'a donnée à lire à Einstein, qui lui aurait répondu « Je vous le rends, c'est trop profond pour qu'une intelligence humaine puisse le comprendre ».
Le problème de ma production littéraire m'apparaît extérieurement comme très simple. Si mes conditions de vie et ma santé s'améliorent pour que je puisse passer mes nuits à écrire et mes jours à dormir, je pourrais peut-être produire quelque chose d'acceptable. Mais comme cela n'a pas été possible depuis 5 ans, ce que j'ai essayé d'écrire ressemble à un horrible fatras, un ravaudage misérable, un bricolage mesquin de pièces et de morceaux mécaniquement rapportés. Et oui, tout le monde n'a pas le flegme ni le talent de l'équipe des Nouveaux Chemins, c'est-à-dire de Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Colomba Grossi et Lucie Tardy, avec Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Jean-Guilain Maège à la prise de son, et celle qui travaille la nuit et le jour pour vous offrir 2 minutes en or au quotidien, c'est bien sûr Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et bien toute cette nuit, j'ai travaillé sur Malebranche à l'occasion de la parution d'une monographie de Claire Schwartz aux éditions des Belles
Lettres. Le résultat à 10h51. Grâce au fantastique qu'il a su percevoir dans le monde bureaucratique, écrit Milan Kundera, Kafka a réussi ce qui paraissait impensable avant lui. Transformer une manière profondément antipoétique, celle de la société bureaucratisée à l'extrême, en grande poésie de roman. Transformer une matière extrêmement banale, celle d'un homme qui ne peut obtenir le poste promis, ce qui est l'histoire du château, en mythe, en épopée, en beauté jamais vue. Et pourtant, écrire pour Kafka n'est jamais perçu comme un acte de célébration de la beauté cachée du monde. C'est un impératif, une nécessité à laquelle il ne peut se dérober sans que pour autant il ne puisse s'y plier de manière satisfaisante. « Il faut écrire pour vivre », écrit-il lui-même à Félix le 29 novembre 1912. « Horreur ! Que ne puis-je détruire les pages que j'ai écrites depuis 4 jours et si radicalement qu'elles soient comme si elles n'avaient jamais été ?» L'absurde chez Kafka commence là, précisément, au moment même où l'écriture s'impose à lui, tout en lui interdisant la satisfaction de l'écriture. D'où sa demande de faire brûler ses écrits après sa mort, demande que Max Brod, sans lequel Kafka ne serait pas lu aujourd'hui pour ce qu'il est, a eu le courage de ne pas respecter, dans un acte de fidélité extrême, puisqu'il implique la désobéissance. Faut-il pour autant lire l'œuvre de Kafka et la constante description d'un homme en lutte contre une loi absurde et illégitime comme une parabole du rapport de l'écrivain à la loi de l'écriture? Ce qui est sûr, c'est que cédant à cette loi, Kafka pénètre dans un monde exclusif et absolu, celui de la littérature. Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais, même les conversations sur la littérature, écrit-il encore. Alors fidèle à cette exigence intenable, essayons, le temps de 4 émissions, de ne pas converser sur les textes de Kafka, mais avec eux, en pénétrant au plus près de ces textes. Grâce à nos 4 invités, demain Florence Banco qui vous parlera du journal de l'écrivain, mercredi Jean-Pierre Morel qui vous fera revivre le procès, et jeudi Jean-Claude Poisat qui se métamorphosera pour vous en animal indéfinissable. Mais aujourd'hui, commençons en toute logique par le dernier des romans de Kafka, roman inachevé, glacial et glaçant, aux tréfonds absurdes que vient arpenter pour vous le magistrat Denis Salas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ankunft. Es war spätabend, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefen Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Il était tard lorsque K. arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. K. resta longtemps sur le pont de bois qui mène de la grande route au village, les yeux levés vers ses hauteurs qui semblaient vides. Puis il alla chercher un gîte. Les gens de l'auberge n'étaient pas encore au lit. On n'avait pas de chambre à louer, mais, surpris et déconcerté par ce client qui venait si tard, l'aubergiste lui proposa de le faire coucher sur une paillasse dans la salle. K. accepta. Il y avait encore là quelques paysans attablés autour de leur chope, mais, ne voulant parler à personne, il alla chercher lui-même la paillasse au grenier et se coucha près du poêle. Il faisait chaud. Les paysans se taisaient. Il les regarda encore un peu entre ses paupières fatiguées, puis s'endormit. Mais il ne tarda pas à être réveillé. L'aubergiste se tenait debout à son chevet en compagnie d'un jeune homme à tête d'acteur qui avait des yeux minces, de gros sourcils et des habits de citadin. Les paysans étaient toujours là. Quelques-uns avaient fait tourner leurs chaises pour mieux voir et mieux entendre. Le jeune homme s'excusa très poliment d'avoir réveillé K et se présenta comme le fils du portier du château, puis déclara « Ce village appartient au château. Y habiter ou y passer la nuit, c'est en quelque sorte habiter ou passer la nuit au château. Personne n'en a le droit sans la permission du comte. Cette permission, vous ne l'avez pas. Ou du moins, vous ne l'avez pas montrée. »
Comme dans le procès, comme dans la métamorphose, de textes qui ont été écrits avant le château de Nicéphore, l'absurde se produit dès la première page et surtout dès le réveil.
Dès le réveil, parce que beaucoup de textes de Kafka puisent leur inspiration dans ce moment indistinct entre le rêve et la réalité. Et dans ce moment où on ne sait pas très bien si c'est la nuit qui expire ou le jour qui avance, Kafka situe son récit et imagine en quelque sorte une réalité que lui seul peut voir parce qu'il se positionne dans ce moment d'indistinction des frontières et des situations.
Alors comment ne pas lire ce roman qui est donc le dernier comme étant une répétition, une autre mise en scène de l'éternel problème auquel Kafka s'affronte dans tous ses écrits, à savoir l'affrontement entre un homme, le narrateur, et l'absurdité de la loi qui n'a aucun fondement et qui paraît sous toutes les coutures complètement arbitraire.
Avec le château, on a une autre situation qui apparaît par rapport au procès. Dans le procès, l'homme est confronté à une loi qui l'accuse d'un crime qu'il ne connaît pas et dont il va tenter de se défendre tout au long du récit que nous propose Kafka. Ici, c'est différent. Ici, c'est un homme, K, sans nom, sans identité, sans filiation, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à quelle patrie il appartient, qui arrive dans un village, et on l'a vu dans le texte tout à l'heure, et qui découvre que dans ce village, il faut une permission particulière pour habiter, séjourner, avoir un travail. Et il va peu à peu découvrir, d'ailleurs c'est dit dès le premier texte qu'on vient d'entendre, que le village appartient au château. C'était quelque chose d'assez stupéfiant. Et puis, il va se rendormir, se réveiller. Et au cours de ce moment initial, il arrive tout de même à obtenir, à rester dans cette auberge du village parce que on lui dit qu'effectivement, il a été appelé comme arpenteur pour, à la demande du château, pour exercer ce métier. Et il essaiera de comprendre pourquoi il a été nommé arpenteur. Et au cours de son parcours, qui sera très long au cours du roman, il va essayer d'élucider cette situation absurde, comme vous l'avez dit, dans laquelle il est plongé.
Disons tout de suite que c'était un texte qui a été publié de manière posthume et que donc le titre n'est pas de lui, que l'on doit la publication de ce manuscrit à son ami Max Brod.
Oui, Max Brod a publié pour la première fois Le Château en 1925 et Alexandre Vialat a donné une traduction en France en 1938. Donc on a, c'est un texte que Kafka écrit à l'extrême fin de sa vie, au moment où il était très atteint par la tuberculose pulmonaire et où il a pu publier, écrire un certain nombre de textes, un certain nombre de nouvelles, d'écrits brefs, et notamment le Château, qui est son dernier roman.
Alors tout le roman va consister en les différentes péripéties que va rencontrer ce narrateur K, enfin le personnage principal K, pris dans ce village, qui va rencontrer donc d'autres personnages et qui ne va jamais réussir à pénétrer dans le château où, dit-il, il a été convoqué, mais en même temps on ne lui demande jamais de venir, voilà. Si bien qu'il reproduit sans cesse cette espèce d'injonction dont il ne peut pas se défaire et l'impossibilité de s'y plier.
Voilà, il est dans cette injonction permanente. À la fois, tu es appelé à un emploi d'arpenteur et en même temps, personne en fait ne t'accueille pour exercer cet emploi. On est dans cette situation paradoxale. Ce qui est très intéressant dans le cas de K, si je peux dire, c'est qu'il cherche à s'intégrer. Il cherche à s'intégrer. C'est un homme qui cherche à s'intégrer et à utiliser les moyens classiques de l'intégration. On le voit très bien, il cherche un logement, qu'il trouvera très 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 difficilement, on le verra tout à l'heure. Il cherche un emploi, arpenteur, mais il réalise très vite que c'est peut-être une erreur des bureaux qui l'a conduit à occuper ce poste. Et il cherche aussi, et c'est très important pour lui, à se marier, conquérir une femme et à proposer au village une existence légale consacrée par le mariage. Donc c'est un homme qui veut être intégré dans cette loi que lui propose le château, mais on verra que dans tous ces projets d'intégration, comme le dit Hannah Arendt, dans cette volonté d'être un homme parmi les hommes, s'intégrer à la famille humaine, à la communauté humaine, on verra qu'effectivement, dans toutes ces tentatives, c'est un échec qu'il rencontrera.
C'est-à-dire qu'il est condamné à rester étranger.
Il est condamné à rester étranger, mais il n'est pas seulement condamné à subir cette défaite interminable, il s'astreint lui-même à combattre pour revendiquer une place d'hommes parmi les hommes. Je crois que c'est ça qui est très fort dans le château. On retrouve au fond la posture de Joseph K dans le procès aussi, qui reste debout malgré l'accusation qui le frappe. Il fait face, il se défend. Là, K, c'est exactement pareil, mais sa posture est différente. Il cherche à rencontrer le fameux Clam, celui qu'il a appelé à ce poste d'arpenteur, le chef du 10e bureau du château, le maître du château étant le comte Westwest, qui n'apparaîtra jamais. Il cherche à rencontrer Clam pour entendre de sa propre bouche la raison de son arrivée dans ce château.
Et comment expliquez-vous cette, sans faire de psychologie, hein, mais parce que c'est quand même le ressort même du roman et de tous les romans de Kafka, cet entêtement du personnage à vouloir envers et contre tout essayer d'élucider un mystère dont on sait qu'il n'aura pas la clé?
C'est le mystère du combat des personnages de Kafka. On a la même posture de combat chez Joseph K. On l'a ici d'une manière peut-être encore plus forte.
Ouais.
Parce que là, il a, je crois que Blanchot parle d'une obstination inflexible du personnage de K. Et il y a une volonté de combattre et de combattre, c'est d'être reconnu. La volonté d'être reconnu, vous voyez, c'est pas tellement comme dans le cas de Joseph K du procès, la défense d'un personnage, c'est la volonté d'être reconnu comme homme marié, comme homme employé, comme homme ayant un logement dans une communauté qui est construite pour l'exclure a priori, puisque dès le début, on vient d'entendre le premier texte, il n'est pas accueilli avec bonne volonté par les villageois. Dans le très beau film que Haneke a fait pour la télévision allemande, c'est une tempête de neige qui l'accueille, les villageois lui ferment la porte au nez, on lui ouvre la porte mais on le chasse tout aussitôt, donc il est totalement confronté à l'inhospitalité du village et il doit à toute force se faire une place, et ce sera son combat. Et il mesure à quel point son combat sera difficile à l'inhospitalité qu'il rencontre dès le début du roman.
Peu d'œuvres sont plus rigoureuses dans leur démarche que le château de Kafka. K est nommé arpenteur du château et il arrive dans le village. Mais du village au château, il est impossible de communiquer. Pendant des centaines de pages, K s'entêtera à trouver son chemin, fera toutes les démarches, rusera, biaisera, ne se fâchera jamais et avec une foi déconcertante, voudra rentrer dans la fonction qu'on lui a confiée. Chaque chapitre est un échec et aussi un recommencement. Ce n'est pas de la logique, mais de l'esprit de suite. L'ampleur de cet entêtement fait le tragique de l'œuvre. Lorsque K téléphone au château, ce sont des voix confuses et mêlées, des rires vagues, des appels lointains qu'il perçoit. Et cela suffit à nourrir son espoir, comme ces quelques signes qui paraissent dans les ciels d'été ou ces promesses du soir qui font notre raison de vivre. On trouve ici le secret de la mélancolie particulière à Kafka. La même, à la vérité, qu'on respire dans l'œuvre de Proust ou dans le paysage ploutinien. La nostalgie des paradis perdus. Mais rien n'y fait. La recherche de l'éternel est ici méticuleuse et ces automates inspirés que sont les personnages de Kafka nous donnent l'image même de ce que nous serions, privés de nos divertissements et livrés tout entiers aux humiliations du divin.
Comme je vous le disais, nous n'avons pas besoin d'un arpenteur.
Monsieur le maire, vous avez lu la lettre de Clam. Elle est signée. Je ne l'ai pas rêvée, cette lettre. Le château m'a bien nommé arpenteur.
Faites voir de nouveau. Cette lettre n'est pas un document administratif.
Ah bon?
C'est une lettre privée.
Ah ouais.
Mais vous voyez, elle n'a pas d'entête. Autant dire qu'elle ne peut être jointe à votre dossier.
Justement. J'aimerais bien le voir, ce dossier.
Mitzi, tu l'as trouvé? Fais-toi aider par les assistants de monsieur. Bon, je vais vous résumer l'affaire de mémoire. Pardonnez-moi s'il y a des troubles. Il y a longtemps, bien longtemps, un arrêté émanant du château nous informait qu'un arpenteur allait être nommé. Or, nous n'avions nullement besoin d'un arpenteur. Le cadastre est fixé depuis des décennies, personne ne le conteste. Pour nous autres paysans, cette nomination d'un arpenteur était troublante. Bref, j'ai répondu non au château.
D'accord. Et moi, dans tout ça?
Vous êtes qui, déjà?
Je m'appelle K, je suis l'arpenteur.
Ah oui. Eh bien, dans ce cas, ma question est la suivante. Qu'êtes-vous venu faire dans le village, puisque nous n'avons pas besoin d'un arpenteur? Ça vous amuse?
Ce qui m'amuse, monsieur le maire, c'est d'entrevoir l'invraisemblable imbroglio qui peut décider parfois de l'existence d'un homme.
Et vous n'avez encore rien vu. Mais Pitsy, qu'est-ce que tu fais?
Ma lettre de Clam.
Bon, Mutsi, tu as fait un petit bateau avec la lettre non administrative de Clam. Rends-la au monsieur et change ma compresse, tu veux bien, ma jambe m'en fait mal.
Alors, à l'obstination du personnage de K, décrite par Camus dans Le mythe de Sisyphe, dont j'ai lu un extrait de Denis Salas, Camus pour lequel l'absurde est véritablement existentiel, et c'est pour cela que ce texte s'inscrit bien dans la logique de son texte à lui, hein. Chaque chapitre est un échec et aussi un recommencement, c'est Sisyphe qui éternellement pousse le rocher en haut de la montagne, puis celui-ci redescend, et bien correspond aussi une dimension, disons, beaucoup plus politique de contestation, de dénonciation de la perversion absolue des institutions auxquelles fait face K, comme ici dans le dialogue avec Monsieur le maire, dans l'adaptation radiophonique proposée par France Culture qu'on vient d'écouter.
Oui, avec cette touche humoristique qu'on vient d'entendre.
Parce que c'est drôle aussi, on n'insiste pas.
Oui, il y a une drôlerie dans ce texte et puis dans d'autres passages du château sur lesquels il faut insister, puisque là, c'est une caricature des mœurs bureaucratiques et juridiques, puisque K découvre, en rencontrant le maire du village, que sa nomination finalement est due à une sorte d'erreur des bureaux. Alors maire lui explique savamment, doctement, que oui, c'est vrai, il a reçu une lettre, mais cette lettre a été envoyée par un fonctionnaire trop zélé, à un moment donné où effectivement on n'avait plus besoin d'arpenteur, et puis un autre fonctionnaire moins zélé lui a envoyé une lettre qui a contredit la précédente, et puis du coup quand la lettre lui est parvenue, on n'avait plus besoin d'arpenteur. Donc c'est l'absurdité la plus totale, et quand K dit mais oui, mais j'ai reçu une lettre de Clam. qui me demande d'exercer
le supérieur hiérarchique,
de beaucoup de gens au château. Mais non, lui dit le maire du village, ce n'est pas une lettre d'embauche, ce n'est pas un contrat de travail, c'est un document informel qui vous a été transmis, qui n'a aucune valeur juridique. Donc il est l'exégèse, il fait l'exégèse au fond des documents qui ont été remis à... On voit le juriste Kafka, je ouais. dirais, dans cette petite touche. Il se fait l'exégèse au fond des documents qui ont été remis à K pour lui montrer qu'au fond, personne ne l'a appelé. Et il conclura l'entretien en lui disant finalement... Personne ne vous retient, mais on ne vous chasse pas. Donc c'est l'incertitude totale qui domine la situation de K à l'issue de cet entretien qui ne lui apportera qu'une chose. Il aura tout de même un emploi subalterne de concierge dans l'école dominée par un instituteur assez tyrannique et qui va lui mener la vie dure.
Kafka, et vous l'avez rapidement évoqué, connaît lui-même cet univers-là. Il travaille dans une compagnie d'assurance. Il est en proie quotidiennement, si j'ose dire, avec justement ces aléas liés à la loi elle-même.
Oui, oui, il connaît très bien. Kafka est un juriste, il est docteur en droit. Il a exercé très très longtemps, presque jusqu'à la fin de sa vie. On l'oublie parce qu'on évoque toujours ces passages dans son journal où il se plaint de son activité salariale qui l'empêche d'écrire. Mais il n'empêche qu'il était un homme d'influence dans cette compagnie, qu'il parlait tchèque, qu'il connaissait très bien le droit du travail, qu'il a beaucoup exercé dans ce domaine. Et donc les mœurs bureaucratiques font partie, je dirais, de son environnement naturel. Et il peut parfaitement les projeter dans son univers imaginaire et... au fond, dessiner ces fantasmes, au fond, à partir desquels il pourra construire ses récits.
Et derrière ce constat d'une loi qui s'impose à nous, sauf que forcément on puisse, disons, remonter jusqu'à la cause première, et c'est le cas de tout le château, et lisez-vous chez Kafka, dans les textes de Kafka, une invitation à une forme de soumission pour sauver sa vie, pour sauver sa peau, ou une invitation à la transgression, au risque justement d'en mourir.
Justement, c'est tout le problème. K est dans un village totalement soumis au château. Dès le début du roman qu'on a lu tout à l'heure, le village et le château, c'est la même chose, dit un des protagonistes ou le narrateur. Donc on a bien une situation de confusion entre le village et le château. Or, c'est cette confusion que K va dénoncer et la soumission impliquée par cette confusion. Et K incarne un personnage qui va, petit à petit, revendiquer par des transgressions de plus en plus importantes, finalement, au cours du roulement du récit, qui va revendiquer une place différente, une place d'opposant, de dissident, pourrait-on dire, à l'égard de cette soumission que le château impose à tous les habitants du village. Donc c'est cette place particulière qu'il va tenter d'occuper, et sa posture constante, sa transgression constante, c'est de vouloir, ce qui lui sera reproché ô combien, de vouloir avoir un entretien avec Clam pour comprendre la situation dans laquelle il est plongé, qu'il n'obtiendra jamais et qu'il ne cessera de revendiquer.
Et de vouloir se marier également. Ça, c'est amusant de voir comment le mariage a une valeur transgressive dans
mariage,
ce texte.
Alors, le mariage est fondamental. On a beaucoup centré, Jean-Pierre Morel, dans son très beau livre sur le château, centre beaucoup l'analyse sur... il souligne notamment le fait que dans ce roman, c'est la seule relation, amoureuse qu'il y a dans les romans de Kafka. On évoque la figure de Milena Jesenska, qui est une des dernières compagnes de Kafka, qui serait, au fond, à la base du personnage de Frida. Pourquoi c'est si important, le mariage, pour K? Précisément parce qu'il veut... Alors, d'abord, il faut parler du statut des femmes dans le château. Les femmes sont soumises au maître du château. En gros, quand les fonctionnaires du château veulent une femme, ils font une sorte de descente sur place, et c'est du rapt sexuel qui s'opère. Et les femmes sont en quelque sorte soumises à cette situation-là. Elles en tirent gloire. Et Frida, avant de rencontrer K, est fière d'être la maîtresse de Clam. Elle lui dit « Je suis la maîtresse de Clam, c'est grâce à Clam que je suis serveuse dans l'auberge. » Donc elle a une promotion sociale dans le village parce qu'on sait, parce que tout le monde sait qu'elle est cette maîtresse. Donc les femmes sont dans cette position de soumission, mais avec un bénéfice secondaire qui est une promotion sociale réelle. Toutes les femmes, l'hôtesse du village, un autre personnage qui est simple femme de ménage, qui est Pépi, qui aura aussi une place quand Frida quittera son poste de service, etc. Donc toutes les femmes sont... Sauf que, quand Frida rencontre K, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et Frida va transgresser cette règle de soumission en revendiquant fortement, en faisant l'amour, devant la chambre d'hôtel de Clam avec K, pour provoquer en quelque sorte le suprême fonctionnaire, comme on l'appelle parfois dans le roman, pour le provoquer et partir avec K pour vivre un moment de vie commune dans l'emploi qui lui a été confié de concierge. Donc Frida va transgresser cette règle par cette relation amoureuse avec K pour vivre ce moment bref qui n'aura pas de suite
parce que est intéressant, que c'est la transgression s'arrête au moment où elle commence.
Voilà, la transgression s'arrête parce qu'effectivement Frida sera en quelque sorte récupérée par l'ambiance de soumission qui règne dans ce village et en particulier par un personnage qui est l'hôtesse, qui est une ancienne maîtresse de Clam. Décidément, Clam est entourée de proies sexuelles, si je peux dire, et qui va lui dire, mais comment, tu avais un statut quand tu étais avec Clam, tu étais un personnage, tu avais une place dans le village, et là, depuis que tu es avec cet étranger, avec ce vaurien, avec ce sans grade, tu es redevenu quelqu'un de tout à fait insignifiant. Ressaisis-toi, retrouve ta place, retrouve ta position sociale originelle, et sois digne de l'amour que Clam t'a donné. Donc, elle va effectivement ensuite, il y aura une rupture entre K et Frida, qui va être une rupture déchirante, et qui va effectivement conduire à la réintégration de Frida dans la situation de soumission initiale, à travers une relation nouvelle qu'elle va nouer avec un des deux aides, ou pseudo-aides, qui étaient affectés à K, qui sont Arthur et Jérémy, les deux faux arpenteurs, les deux faux aides arpenteurs qui lui ont été confiés.
Ça, c'est pour Frida. Un autre personnage féminin très important dans le roman est celui d'Olga, qui va raconter la disgrâce de la famille Barnabé, qui va s'appeler ainsi, puisque Barnabé est finalement le nom le plus innocent de cette famille. Ouais. Une famille qui va être ni emprisonnée, ni vraiment exclue, mais qui va être punie par le silence que va lui adresser le château, puisqu'un geste irréparable aura été commis de déchirer la lettre qu'on leur a envoyée.
Alors, il faut un peu résumer l'histoire qui me semble être vraiment centrale dans ce roman, qui est dans la toute dernière partie du roman. Dans cette famille dite Barnabé, famille le père est cordonnier, donc c'est une famille du village, un jour une fête des pompiers est organisée et la deuxième fille, Amalia, est magnifique. Elle apparaît lors de la fête avec un collier de grenat, de pierres précieuses, et elle fascine complètement un des fonctionnaires qui est là, Sortini, qui va ensuite la convoquer, comme font souvent les fonctionnaires du château. Convoquer une femme, c'est clair que c'est pour la posséder. Et donc Sortini lui enjoint de le rejoindre et il lui envoie une lettre. Et cette lettre, dont on ne sait pas très bien le contenu, Kafka ne nous donne pas le contenu exact de cette lettre, volontairement, évidemment. En gros, Sortini, ce qu'on sait, lui dit « Viens immédiatement, sinon, on ne sait pas la suite. » Et Amalia va commettre un geste irréparable pour le château, pour le code non écrit du château. Elle va déchirer cette lettre et renvoyer le messager. Alors là, c'est le crime absolu qui est commis pour cette loi qu'on ne connaît pas. Et pour punir vraiment cette famille donc qui ne porte pas de nom dans le roman de Kafka. Et Olga dira dans son récit à K qu'elle porte le nom de Barnabé, le nom du plus innocent d'entre nous, comme vous l'avez dit. Et bien, pour punir cette famille, une sorte de châtiment démesuré va la frapper en exilant cette famille, en la contraignant à déménager, à s'isoler de plus en plus des réseaux d'échanges du village et à la marginaliser complètement pour en faire un territoire sans limite, sans frontières et totalement ostracisé.
Écoutons Olga raconter la disgrâce de la famille Barnabé interprétée par Jean Jeclès.
On ne parlait plus de nous comme d'êtres humains. On ne prononçait plus notre nom de famille. On nous appelait les Barnabé, du nom du plus innocent d'entre nous. Notre baraque elle-même prit un mauvais renom. Et si tu t'examines bien, tu t'avoueras que toi aussi, tu as cru trouver ce mépris justifié la première fois que tu es entré. Plus tard, quand on a recommencé à venir nous voir, de loin en loin, les gens ont fait la moue à propos de bagatelles. Parce que Par exemple, la petite lampe à huile était pendue là-bas au-dessus de la table. Où l'eût-on pendue, sinon là? Mais les gens trouvaient ce détail insupportable. Et si nous changions la lampe de place, ils continuaient à faire les dégoûter. Tout ce que nous étions, tout ce que nous avions se heurtait au même mépris. Et que faisions-nous pendant ce temps? Le pis que nous puissions faire. Une chose pour laquelle nous eussions mérité plus justement le mépris que pour la raison qui nous le valait pratiquement. Nous trahissions Amalia, nous désobéissions à son ordre muet. Nous ne pouvions plus vivre ainsi, nous ne pouvions vivre sans aucun semblant d'espoir. Et nous nous mîmes, chacun à notre façon, à assaillir ou supplier le château afin qu'il nous pardonnât. Nous savions bien que nous ne pouvions rien réparer. Nous savions aussi que la seule accointance sur laquelle nous puissions fonder quelque espoir, celle de Sortini, l'unique fonctionnaire qui voulut du bien à mon père, était devenue, du fait de la situation même, inutilisable pour nous. Pourtant, nous nous mîmes à l'œuvre. Le père commença ses inutiles pèlerinages chez le maire, les secrétaires, les avocats, les scribes. Et la plupart du temps, on ne le recevait pas. Et s'il réussissait par ruse ou par hasard à forcer la porte interdite, quelle joie chez nous à cette nouvelle, on s'en frottait les mains. Il se voyait expédié en cinq secs et on ne le recevait plus jamais.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h32 et c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Kafka. C'est du Château de Kafka, son dernier roman que nous parlons aujourd'hui en compagnie du magistrat Denis Salas, à qui l'on doit un ouvrage publié au Bien Commun, dans la collection Le Bien Commun, aux éditions Michalon, qui s'intitule Kafka, le combat avec la loi.
La rencontre posthume de l'univers imaginaire de Kafka avec l'univers réel des états totalitaires est une des rencontres les plus fascinantes, fantastiques, incroyables de notre siècle. En Tchécoslovaquie, Kafka, après 1948, est devenu persona non grata et n'était plus édité, etc. En 1963, les intellectuels tchèques ont organisé dans un château, c'est très significatif, dans un château qui s'appelle Liblitz, une conférence internationale des marxistes sur Franz Kafka. Cette réhabilitation de Kafka coïncide avec le commencement d'une grande libéralisation politique du pays. Et en 1968, comme vous savez, les chars russes ont occupé Prague. Et pour justifier cette invasion, les Russes ont affirmé qu'il y avait une contre-révolution en Tchécoslovaquie. Et selon eux, cette contre-révolution a commencé par la conférence à Liblitz qui voulait réhabiliter Kafka. Pourquoi c'est surtout Kafka qui irrite tellement l'idéologie officielle de ces pays? Franz Kafka est l'auteur inacceptable dans le monde totalitaire parce que son œuvre est l'image du monde totalitaire.
«
L'œuvre de Kafka est peut-être l'image du monde totalitaire. C'est Milan Kundera qui le disait sur France Culture en 1978. Mais précisons les choses, et c'est le texte du Château lui-même qui nous aide à le faire, Denis Salaz, dans le texte qu'on a entendu juste avant l'opéra d'André Laporte sur le château, justement. Eh bien, ce qu'on y entend, c'est la servitude volontaire de la famille devant l'autorité du château.
Bien sûr. C'est cette puissante servitude liée à la confusion entre le village et le château, confusion totalitaire, pour reprendre les termes de Kundera tout à l'heure, qui domine. Mais ce qui me semble important aussi dans le récit d'Olga, quand elle formule ce châtiment, ce n'est jamais un châtiment, je dirais, judiciaire. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de formulation explicite. Dans cet écrasement de cette famille, il y a une domination diffuse, progressive et totale qui vient au fond inverser les places, puisque Amalia n'est plus victime, elle est auteur d'un crime de lèse-majesté entre guillemets, et c'est le fonctionnaire du château qui est la véritable victime. Donc cette victime le château est aussi une victime puissante qui demande effectivement qui place en quelque sorte cette famille dans une position de plaignant, demandant à toute force grâce, pardon, et notamment la figure du père humilié par le château, qui va devoir remettre sa médaille de pompier solennellement, cette dégradation du père qui va au fond se porter au fond dans les recoins du château pour réclamer cette grâce. La fille Olga sera prostituée dans les écuries du château et Barnabé sera un messager officieux, petite gratification, grâce peut-être qui est accordée à cette famille ultime. Mais ce qui me semble très important aussi, c'est que devant ce récit d'Olga qui accepte cette soumission, K immédiatement réagit et dit « Mais ce n'est pas vous qui êtes coupable. C'est eux, c'est le château qui est coupable. N'inversez pas les rôles. C'est un abus de pouvoir dont vous êtes victime. Donc n'acceptez pas aussi immédiatement sans réagir cette situation. » Donc K est un véritable. C'est peut-être pour ça que Kundera aime autant Kafka. C'est qu'il y a une forme de dissidence et de résistance dans les personnages de Kafka, dans celui-là en particulier, qui va se mettre en opposition avec cette famille. Amalia est un personnage étrange parce qu'elle est à la fois victime et en même temps elle est frappée de mutisme. Ce n'est pas une victime qui va, comme K, réagir, réclamer. Elle est totalement neutralisée par le climat familial, mais en même temps c'est une alliée pour K, parce qu'elle a su résister à l'emprise sexuelle des fonctionnaires du château, et par cette résistance, elle incarne peut-être un ferment de désobéissance.
Alors,
qui peut apparaître.
Le silence est ambivalent, puisque le silence est celui de la soumission, celui de la servitude, et c'est pour ça que j'employais à dessein l'expression de servitude volontaire. On est dans ce mécanisme-là, oui, hein, dénoncé par la Boétie, puisque c'est la Boétie qui dit, voilà, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'ils lui donnent, qui n'a de leur qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer. C'est exactement ce qui se passe parce qu'ils sont silencieux.
Ouais, ouais.
Et en même temps, le silence est aussi l'arme redoutable dont se sert le château lui-même lorsqu'il ne produit et ne donne aucune raison sa condamnation. Vous faites le rapprochement dans votre livre avec le... Alors, il y a le texte de Kafka, le silence des sirènes, justement.
Oui, tout à fait.
Pour ruser, avoir Ulysse, les sirènes se taisent.
Absolument. Et le silence, c'est aussi le silence du recours possible. Dès lors qu'il n'y a ni preuve, ni trace, ni accusation, il n'y a pas de débat démocratique possible, puisqu'il n'y a aucune manifestation formelle de cette accusation. Il y a uniquement une domination diffuse qui prend possession du château et qui construit profondément la servitude volontaire comme étant le soubassement très très puissant de cette domination. Donc à partir de là, le château n'a rien à faire. La servitude volontaire est là, elle est établie depuis de manière immémoriale, et le seul grain de sable dans cette servitude-là, c'est précisément la résistance ponctuelle, enfin la dissidence ponctuelle de Frida, la posture transgressive de Amalia, et surtout le combat que mène K pour lutter contre cette puissante servitude qui envahit complètement les personnages du château. Donc on est vraiment dans une situation de ce type-là dont on peut espérer qu'effectivement un jour les personnages vont sortir, mais ce n'est jamais, à mon sens, ce n'est pas une défaite que subit K. Il avance progressivement dans l'élucidation des mécanismes de la servitude volontaire. Je crois que c'est ça que nous apporte au roman. On a dit souvent que c'était une défaite interminable, mais je pense qu'il progresse dans cette direction-là d'une manière lente, difficile, avec des retours en arrière, mais il élucide ce mécanisme fatal qui envahit le village et qui tente de prendre possession de sa résistance aussi.
C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à élucider le mystère qui règne autour du château et autour duquel d'ailleurs est réglée toute la vie de la communauté, mais il examine et il apprend sa connaissance.
Oui.
Ça croît à mesure que le texte avance. C'est en ça que c'est pas simplement un éternel recommencement.
On a beaucoup dit que c'était un roman immobile. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans cette scène du châtiment d'Amalia. Qui renvoie au tout début du roman où il rencontre Barnabé, qui est un messager de cette famille aussi, et il reconnaît au fond le mécanisme le plus profond qui a servi cette famille, le silence qui préside et l'impossibilité de se saisir d'instruments capables de renverser cette domination qui est fatale et irrévocable. Si ce n'est qu'effectivement, il renvoie son obstination, son entêtement, sa volonté de combattre, qui est inaltérable.
Il régnait dans le traîneau une chaleur extraordinaire. Elle persista malgré la portière ouverte que K n'osa pas refermer. On ne savait pas qu'on était assis sur une banquette de bois tant elle était épaissement recouverte de coussins, d'étoffes et de fourrures. Qu'on se tourna et s'étira comme on voulut, on retombait toujours dans une épaisseur chaude et moelleuse. Les bras allongés, la tête soutenue par des coussins toujours prêts à le recevoir, K regardait hors du traîneau la maison sombre. Pourquoi Clam mettait-il si longtemps à sortir? Après une longue station dans la neige, K, engourdi par la chaleur, souhaitait que Clam arrivât enfin. L'idée qu'il valait mieux ne pas être vu de Clam dans sa présente position ne venait effleurer son esprit que d'une façon très imprécise, comme la crainte d'un léger dérangement. Cette insouciance était aidée par la conduite du cocher qui le savait dans le traîneau et l'y laissait sans même lui demander le cognac. C'était d'une grande déférence. Mais K voulait porter ce cognac. Pesamment, sans changer de position, il tendit la main vers la poche de la portière. Non vers la poche de la portière qui était ouverte, car elle était trop éloignée, mais vers la poche de la portière qui était fermée derrière lui. Peu importait, car il y avait aussi des bouteilles dans celle-ci. Il en sortit une, la déboucha, respira l'odeur, et ne put s'empêcher de sourire, tant ce parfum était doux, caressant. On eût dit qu'une personne très chère vous parlait, vous louait, vous encourageait, sans qu'on sût au juste de quoi il s'agissait et sans qu'on désirât le savoir. Heureux seulement que ce fût elle qui vous parla ainsi. Denis Salas, toute la richesse et la poésie du texte de Kafka vient du fait que les lectures que nous pouvons proposer, qu'elles soient politiques, antitotalitaristes, ne se réduisent pas, au contraire. Enfin, tout le texte ne se ramène pas à ces interprétations-là. Il y a aussi ce genre de scène où Kafka va goûter, sentir le cognac. Il est dans une transgression absolue.
Oui, voilà.
Ça passe avec une métaphore, disons, quasiment amoureuse.
Absolument. C'est vraiment le mot juste, la transgression, parce que dans le fameux traîneau de Clam où se passent beaucoup de choses, où notamment les dossiers les décisions se prennent, puisque c'est jamais dans les bureaux, c'est dans des zones intermédiaires que tout cela se passe, notamment dans les, tra- chéneaux, dans les lits, les gens. Et là, K touche au sacré, c'est-à-dire qu'il est il profane vraiment en buvant du cognac dans le traîneau de Clam, en se couvrant de sa pelisse, et il est conscient qu'il transgresse une règle sacrée, puisque ensuite, quand il est découvert dans le doigt dans le pot de confiture, si je peux dire, il est convoqué par un des secrétaires du château qui veut l'interroger, qui veut lui poser des questions. Pourquoi êtes-vous rentré dans une sorte de dossier à charge? Et K refuse de répondre. Il refuse de répondre à un secrétaire du château. Ça ne s'était jamais vu, si je peux dire, dans le royaume du château. Donc il assume et la transgression et le refus de répondre de la transgression. Ça me semble quand même très très fort. Et ça va très très loin, puisque par la suite, quand il est convoqué pour une autre affaire dans un des couloirs du château, il assiste à une scène que Kafka décrit de manière extrêmement désopilante, qui est la distribution des dossiers. Autre scène totalement inattendue et en même temps totalement cachée. Et K découvre que cette image que l'on pouvait avoir de la communication des dossiers aux fonctionnaires se fait dans un désordre indescriptible.
C'est une chorégraphie hallucinante.
Une chorégraphie hallucinante où là, Kafka est d'un comique absolu, puisque au fond, c'est le hasard le pur et simple qui décide la colère de tel fonctionnaire, la résignation d'un autre, le fait qu'un autre veut un dossier pour pas avoir trop de travail, un autre en veut encore un plus gros, et tout ça se décide par des domestiques qui, au gré de leur fantaisie, distribuent les dossiers à droite et à gauche quand le coq chante par le beau matin. Donc K découvre en quelque sorte aussi cette scène qui, là encore, désacralise le pouvoir du château.
Mais alors, vous parlez de sacré, de sacrilège. Comment faut-il l'entendre, dans une dimension religieuse ou
non,
ou
légale? Je le vois dans une volonté de désacraliser un pouvoir politique qui s'entoure d'un climat, en quelque sorte, comme ça, un peu sacré, pour mieux fonder son pouvoir sur la croyance.
Parce qu'il y a beaucoup de lectures théologiques de ce texte.
C'est pas celle que je privilégie, mais en même temps, la croyance fait partie du pouvoir. Et le château a besoin de s'entourer de mystères, de silences, de sacrés, pour fonder son pouvoir. Et l'avancée de K, c'est aussi la désacralisation de ce pouvoir mystérieux qui entoure le château pour au fond, mieux le combattre directement.
Donc le fait de transgresser, d'humer la bouteille de cognac est une manière de le désacraliser, dans la mesure où ça le rend plus proche aussi. C'est que là, il y a un contact direct, physique quasiment, avec un apparat du pouvoir.
Voilà, c'est un contact direct. Il a pu voir Clam, par le trou de la serrure au tout début. Clam, je le rappelle, qui est décrit par l'une de ses anciennes maîtresses, l'aubergiste, comme étant le suprême fonctionnaire, parfois le décrit comme un aigle. Comme un aigle qui plane au-dessus du village, dont l'œil perçant sait remarquer
aussi,
les moindres faits.
Parallèle avec le fascisme.
Voilà, exactement. Troublant. C'est un symbole nazi. Mm. Et en même temps, il est un aigle, tu es une taupe. Donc on voit bien la métaphore animalière qu'utilise le personnage de Kafka. Donc c'est vraiment cette démystification du pouvoir qui est à l'œuvre dans cette rencontre, je dirais, directe. De cas avec Clam dans le traîneau et par ailleurs dans toutes les métaphores que l'on peut utiliser.
Ce roman ne s'achève pas, il n'est pas fini, il s'arrête au milieu d'une phrase quasiment, ce qui laisse la fin complètement ouverte.
Mais il s'arrête sur la rencontre ultime de cas avec un voiturier, Gerstreicher, qui lui propose lui aussi de l'aider. Alors c'est quand même un message important. Gerstreicher est un voiturier, il fait partie du village, il est soumis comme tous les autres. Mais voyant K avancer malgré tout dans la possible rencontre avec Clam, il va s'enhardir, il va demander à K de l'aider à rencontrer Clam. Est-ce que ce n'est pas le début d'une fissure dans la servitude volontaire qui structure en quelque sorte le paysage du village? Est-ce que Kafka n'a pas voulu suggérer en quelque sorte un début peut-être de dissidence dans cet épais pouvoir qui écrase les villageois?
Toute la question est ouverte, effectivement. Nous ne savons pas comment le texte se termine, et on va essayer de terminer cette émission avec une chanson.
Fading now, My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky.
Un grand merci à vous, Denis Salas.
Merci.
D'être venu nous parler du château pour ouvrir cette semaine consacrée à Kafka. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Le combat avec la loi. C'est aux éditions Michelon, un ouvrage très clair, passionnant. Vous abordez plusieurs autres textes de Kafka, dont La lettre au père. Enfin, on avait déjà fait une émission sur ce sujet-là il y a quelques temps. Je renvoie la réécoute de cette émission également. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Il est 10h51. Encore deux minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Nicolas Malebranche est né à Paris le 5 août 1638. Il y est mort le 13 octobre 1715. De l'église Saint-Merry où il fut baptisé, à l'oratoire de la rue Saint-Honoré où il fut enterré, la distance est courte. Le jeune Malebranche n'eut guère à chercher sa voie. Il était de ceux qui n'ont pas à choisir parce qu'ils ont été choisis.
Si l'on en croit cette archive de 1948 de la radiodiffusion française, Nicolas Malebranche aurait été choisi. Ce n'est pas lui qui aurait choisi la philosophie, mais c'est elle qui l'aurait choisi. Alors certes, mais malheureusement pour lui, l'histoire quant à elle semble l'avoir quelque peu oubliée. Comme le dit très bien Claire Schwartz en ouverture de la monographie qu'elle lui consacre, je cite « moins productif que Leibniz, plus ouvertement religieux que Descartes, moins controversé que Spinoza, Malebranche c'est le contre-temps de la modernité et d'ajouter le contre-temps de l'actualité. » Il y a pourtant dans cette monographie, comme dans toutes celles des belles lettres, à la fin, une partie que je trouve géniale sur l'actualité du philosophe traité, sa postérité, ses lectures contemporaines ou la manière dont ses thèses peuvent encore résonner aujourd'hui pour nous. Alors que Malebranche semble oublié, peu étudié à côté de Descartes et Saint-Augustin dont il hérite, on y découvre pourtant que c'est le premier à avoir utilisé le terme de conscience. La conscience ou cette présence de l'esprit à lui-même. La conscience ou ce sentiment confus de soi, cette activité souterraine mais néanmoins régulatrice qui rappelle l'inconscient de Freud et plus généralement les philosophies du soupçon qui postulent cette non-transparence de l'homme à lui-même. Alors certes, Malebranche n'est pas Freud. La loi souterraine qui nous gouverne n'est pas celle du surmoi, mais celle de Dieu sous sa plume. Mais quand on apprend que la lecture du traité de l'homme de Descartes a été comme une révélation pour lui, comme s'il lui était tombé du ciel, comme s'il avait été justement choisi, on a alors envie de comprendre comment, selon lui, on a l'impression, nous aussi, quelques siècles plus tard, qu'on choisit parfois pour nous et sans nous.
Ça donne très envie, c'est donc...
Malebranche, tout simplement, une monographie de Claire Schwartz, publiée aux éditions des Belles Lettres.
Merci Géraldine. Et merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Kafka. Après le château aujourd'hui, et bien demain nous parlerons du journal intime de Kafka, avec Florence Banco-Gilbert qui viendra depuis l'université d'Aix-en-Marseille, qui est spécialiste de littérature et histoire des idées germaniques, vous parler de ce texte malheureusement assez peu connu et vous verrez magnifique. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter cette émission. Vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez à l'heure qui vous convient le plus. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.